Et tout de suite, on retrouve Elena Franc avec Pierre Richard, président de la CEPANT, qui nous présente cette association qui vise à défendre la nature grâce à leurs études et leurs engagements.
Bonjour à tous et bienvenue sur Cité Radio 89.3. Je suis en compagnie de Pierre Richard, bonjour.
Bonjour.
Actuel président de la CEPANT, exactement, c'est ça ?
Tout à fait, oui, je suis un bénévole et donc j'occupe actuellement les fonctions de président avec une équipe autour de moi pour m'aider à administrer... et développer l'association.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus précisément de la CEPANT alors ?
Voilà, donc la CEPANT, ça veut dire Société d'études de protection et d'aménagement de la nature en Touraine, est une association départementale qui est agréée au titre de la protection de l'environnement et qui a pour objectif de défendre la nature et l'environnement en Touraine. Alors, son champ d'action... C'est un peu élargi au fil du temps sur les questions outre celles de la nature, de la biodiversité, de l'eau, de l'agriculture, des nappes d'eau profonde et puis du développement durable sous différents aspects, notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire, la gestion des déchets, la responsabilité sociétale des entreprises, l'alimentation bio, puisqu'on a, on participe au défi foyer alimentation positive, et donc un certain nombre d'aspects qui ont tous trait à l'environnement et à sa protection.
D'accord, mais c'est large, ça fait beaucoup du coup.
Oui, ça fait assez large, donc pour pouvoir mener ces actions, la CEPANT a un certain nombre de salariés qui aident les bénévoles, qui aident de confusion entre les uns le rôle des uns et des autres, bien entendu. Mais nous avons un certain nombre de salariés qui ont un haut niveau d'études en général et qui sont chargés de mission pour un domaine déterminé, la biodiversité. Donc on a un spécialiste de la faune, un spécialiste de la phytosociologie, une botaniste, l'eau et l'agriculture, on a une chargée de mission aussi spécialisée, le développement durable, où on a une chargée de mission et un animateur scolaire. L'équipe est complétée, bien sûr, pour son fonctionnement général, par une directrice, par une secrétaire et par un chargé de communication.
Waouh!
Donc ça fait 9 salariés, tous ne sont pas à temps plein, donc ça fait 8,2 équivalents temps plein à peu près. Mais donc il y a toute une équipe qui fonctionne et en général ce sont des gens assez jeunes et passionnés pour leur métier.
Waouh. Et donc au niveau des bénévoles aussi, comment ça se passe ?
Alors les bénévoles agissent en fonction de leurs compétences et de leur centre d'intérêt. Certains donc accompagnent les actions dans le domaine de la biodiversité. Les inventaires de biodiversité communale, par exemple, l'étude des zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique dans le département, les zones humides également, puisque donc, l'une des spécialisations de la CEPANT, c'est l'inventaire et la protection des zones humides. Et d'autres donc s'occupent de l'administration, et d'autres s'occupent d'aider un petit peu à tenir les stands, puisque nous sommes invités à tenir des stands dans un certain nombre de manifestations locales dans l'année et pour essayer de faire connaître l'association. Donc il y a des rôles extrêmement divers et il est bien certain que nous n'avons pas beaucoup de volontaires pour s'occuper des questions de comptabilité, d'administration. Et donc, il y a une équipe assez restreinte qui constitue le bureau de l'association, qui se charge de ces tâches. Mais donc, c'est toujours un problème dans les associations, je crois, de trouver des bénévoles pour s'occuper des tâches administratives et comptables.
Donc, vous êtes à la recherche activement, peut-être de...
Alors, on recherche toujours de nouveaux membres. Mais bon, il y a un flux régulier de nouveaux adhérents, donc on essaye de prospecter parmi eux ceux qui vont pouvoir nous aider sur tel ou tel type de tâche. Il y en a qui se sont spécialisés également sur les archives. On essaye d'archiver, comme l'association est assez ancienne, de rassembler nos archives, les classer dans le but de pouvoir les verser aux archives départementales, parce qu'actuellement il n'y a pas d'archives dans le département sur les associations de protection de l'environnement.
Donc, d'accord.
Nous sommes vivement incités par les associations d'historiens à faire quelque chose dans ce domaine.
Oui, c'est important aussi de l'inscrire un petit peu dans l'histoire, tout ça.
Oui, donc il y a besoin. Et on espère qu'un jour, des chercheurs ou des étudiants-chercheurs vont s'intéresser à l'histoire des associations de protection de l'environnement et feront des mémoires ou des thèses sur ces sujets, en partie grâce aux fonds qu'on aura versés.
Ah oui.
Et nos amis de la LPO font la même démarche.
LPO, Ligue des protections,
Ligue de protection des oiseaux de Touraine.
On rappelle. Alors, on a parlé de la Sépente en général, mais quelle est l'histoire? Est-ce que vous la connaissez, l'histoire de la création de la Sépente?
Un petit peu, parce que pour les 50 ans de la Sépente, on a fait un petit film pour essayer de retracer cette histoire.
50 ans
En interviewant un certain nombre de survivants ou de dirigeants actuels ou d'animateurs actuels de l'association. Donc l'association a été créée fin 1966. C'est une des premières associations de protection de la nature et de l'environnement. Enfin, c'est la première génération, disons, en même temps que la FRAPNA, la CEPENSO, dans d'autres régions de France. Et donc, elle a été créée par un enseignant-chercheur de l'université, Vincent Labéry, qui est spécialiste de la biologie des insectes et qui a créé, par ailleurs, il avait pris beaucoup d'initiatives, il a créé l'Institut de biologie de l'insecte à Tours et le Centre d'études supérieures d'aménagement avec d'autres enseignants-chercheurs, mais c'était un des pionniers de ces enseignements à l'Université de Tours. Parmi les premiers adhérents, donc, il y a eu pas mal d'universitaires et un conseiller général qui voulait militer pour le retour de la forêt de Chinon à la nature. C'était l'époque où il y avait encore le camp militaire américain dans la forêt de Chinon. Et donc, l'un des premiers combats, c'était de faire en sorte que le maximum du périmètre du camp revienne à la forêt de Chinon.
Wow.
Et donc, ça a été... Et puis, des personnes qui étaient intéressées par les questions de protection de la nature et de l'environnement qui se sont joints et qui ont milité dès les premiers temps à la Sépente.
D'accord.
Donc, l'association est d'abord partie comme une société savante. C'était à l'époque où il y avait beaucoup de sociétés savantes en Touraine et donc se consacrant surtout à des tâches d'études des milieux, pointer les difficultés qu'il y avait à tel ou tel endroit, etc. Et puis donc il y a à côté de cet aspect études qui est toujours prégnant hein, puisque donc nos salariés font des études toute l'année sur des questions environnementales, il y a une activité militante. Donc la Sépente a pris position à plusieurs moments de son histoire sur des aspects qui lui paraissaient importants, avec succès ou pas succès, c'était très variable. Il y a une action par exemple pour préserver et faire connaître des landes qui se trouvent dans la forêt de Chinon et qui ont une caractéristique très particulière. Ce sont des landes sèches avec une végétation méditerranéenne. Donc ça a été une action de longue durée aussi pour faire connaître et préserver ce milieu. Maintenant, cet espace est géré par le Conservatoire des espaces naturels. Donc ça aboutit à une reconnaissance et à une prise en charge par le Conservatoire.
Vous êtes en lien avec toutes les associations.
Oui, donc il y a tout un réseau d'associations. Ouais. Nous sommes nous-mêmes fédérés à France Nature Environnement, une association nationale, sa structure régionale France Nature Environnement Centre Val-de-Loire, et la Sépente fédère elle-même une vingtaine d'associations en Indre-et-Loire qui s'occupent donc localement de questions d'environnement et qui partagent les valeurs de la Sépente.
D'accord. Ouais. Alors, on a parlé de l'aspect global de la Sépente, mais je veux vous poser la question, vous, qu'est-ce qui vous a amené vers la Sépente?
Écoutez, le souci de faire quelque chose, j'étais très pris par mon activité professionnelle, mais quand je suis parti en retraite, j'ai voulu faire quelque chose d'utile pour l'environnement. C'est une cause qui me motivait beaucoup et pour laquelle je m'étais souvent documenté. Et donc la Sépente a été pour moi l'une des solutions pour m'impliquer dans la protection de l'environnement dans le département d'Indre-et-Loire. Et puis, comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de gens pour s'occuper d'administration, donc je me suis retrouvé très très vite propulsé vers des fonctions de coordination et de direction de l'association par mes collègues. Et donc... Ça, l'avantage effectivement d'avoir une vue globale sur l'activité de l'association, le désavantage aussi de prendre tous les coups, hein, puisque bon, c'est pas facile la vie d'une association, les gens sont pas toujours d'accord et il y a des débats. Donc, mais c'est globalement extrêmement intéressant et on a l'impression vraiment de faire quelque chose. Je parlais de cet aspect militant, on a eu l'occasion à plusieurs reprises de se mobiliser pour notamment de défendre des espaces naturels. Il y a peu d'années, donc c'était la lande de Larçay qui était menacée par un projet industriel. Et donc l'action de la CEPANT, à titre gracieux d'abord auprès de la ville de Tours, puis à titre contentieux, a permis, grâce à la cour administrative d'appel de Nantes, de sauver cet espace naturel qui a une biodiversité extrêmement riche.
Ouais, donc vous avez un poids quand même dans certaines actions.
Oui. Alors le fait d'être agréé au titre de la protection de l'environnement par la décision préfectorale nous permet et nous oblige en même temps d'être membres de nombreuses commissions ou conseils locaux ou départementaux des services de l'État ou des collectivités territoriales. La commission qui s'occupe, la CDPENAF qui s'occupe de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, le CODERST qui s'occupe des risques industriels, un certain nombre de commissions qui s'occupent du suivi de sites, notamment de sites classés Seveso, qui requièrent une commission locale de suivi. La CLI aussi de la centrale nucléaire de Chinon. Enfin, ça permet d'avoir beaucoup d'informations mais en même temps, ça nous oblige à mobiliser des bénévoles pour participer à toutes ces instances au niveau départemental, parfois au niveau régional.
Et ils sont présents, ces bénévoles?
Oui, on a des gens qui sont très, très engagés dans ces tâches et qui croient à ce qu'ils font. Et donc, on arrive des fois à peser un petit peu, je vais citer la CDPENAF par exemple, pour militer contre le mitage des territoires par les habitations pour faire en sorte que on limite l'urbanisation en nappe et au détriment des espaces agricoles et des espaces naturels et forestiers.
C'est ça que vous appelez le mitage, c'est ça?
Le mitage, c'est construire des maisons un peu partout dans le.
D'accord.
Oui. Alors, la Touraine est particulièrement touchée par ce phénomène. Il y a une urbanisation en nappe qui se fait surtout à la périphérie des villes et à la périphérie des villages. Mais disons qu'on essaye de faire en sorte que tout le territoire agricole, naturel et forestier soit pas urbanisé peu à peu, quoi.
Oui, c'est important, effectivement. Alors, on a parlé de cette notion de réseau que vous avez avec les autres associations concernées par l'environnement, la nature, la faune et la flore en général. Est-ce que vous avez des partenaires principaux à citer?
Alors, sur le plan associatif, on travaille assez souvent avec la Ligue de protection des oiseaux de Touraine, qui appartient à la même fédération que nous et pour lesquelles nous sommes étroitement complémentaires. Enfin, nous menons pas mal d'actions ensemble. On a également des partenariats locaux avec des associations qui s'occupent d'éducation à l'environnement, comme Couleurs Sauvages ou Arbres et Sciences ou Famille Rurale 37, avec lesquels on se partage notamment, dans la mesure du possible, les animations scolaires.
D'accord. Alors, elle consiste
Dans
en
la
quoi
mesure où, bien
ces...
sûr, les collectivités veulent bien nous confier
Bien sûr.
cette mission.
Elle consiste en quoi ces animations
Eh
scolaires
bien, écoutez,
exactement?
nous, on se spécialise surtout sur la question des déchets, de la prévention des déchets et de la prévention du gaspillage alimentaire. Avec l'idée globale que partagent certaines collectivités, c'est que en travaillant avec les enfants sur ces sujets, en même temps, on sensibilise les familles. Et
D'accord.
donc, c'est avec les enfants d'âge scolaire, quelquefois de collège ou de lycée, mais c'est surtout avec les enfants des écoles élémentaires que l'on travaille sur cette sensibilisation à la prévention des déchets et au gaspillage alimentaire.
Et donc, vous allez dans les écoles?
Oui, tout à fait. Oui. Donc, alors, on travaille surtout avec le syndicat Touraine Propre qui a tout un volet de son activité qui est de la prévention des déchets. Et donc, c'est dans le cadre de la politique de prévention des déchets, soit du syndicat de Touraine Propre, soit de Tours Métropole, quand on travaillait avec cette EPCI.
Et on est ici au quartier des Fontaines et il y a certaines animations, surtout scolaires, qui se déroulent ici, n'est-ce pas?
Il est possible, oui, tout à fait, hein, dans la mesure où effectivement, donc on peut. Alors malheureusement, donc nous avons été écartés du dernier marché sur les animations scolaires de Tours Métropole, Val-de-Loire. Pour des raisons que je ne m'explique pas, mais que et donc on intervient moins à partir de cette année sur les communes de la métropole.
D'accord. Est-ce qu'il y a des animations que vous faites encore, que ce soit dans la région ou dans le département en général?
Ah oui, il y a toujours des animations. Donc, on intervient également ponctuellement dans des lycées, notamment donc dans le cadre de la politique de l'eau. Une idée avait été lancée d'organiser donc un concours dans des classes de première ou de seconde pour apporter des réponses sur la problématique de l'eau, la protection des nappes souterraines, la qualité de l'eau en ville, la protection également des cours d'eau contre l'usage des pesticides, etc. Et donc, il y a des activités ponctuelles, mais extrêmement intéressantes, qui sont menées dans ces milieux scolaires.
Et comment est-ce qu'on peut se tenir au courant de ces animations?
Alors, je pense que des informations peuvent être trouvées sur le site internet de la CEPANT, qui est en cours de refonte et qui, j'espère, va être encore plus attractif que ce qu'il était avant. Et également, donc, pour les adhérents, donc, il y a une lettre hebdomadaire qui arrive dans leur boîte mail, qui les informe des différentes activités de la CEPANT, des appels à bénévoles, des actions qui vont être menées prochainement. Donc, il y a une information soit grand public par le site web et la page Facebook de
Le site
l'association.
web, c'est cepente.fr, tout
Oui.
simplement.
www.cepente.fr.
D'accord. Ou sinon, pour les adhérents, donc avoir ce courrier-là, comment on fait pour devenir adhérent?
Alors, pour devenir adhérent, il y a soit une fiche d'adhésion en papier qu'on trouve au local de la CEPANT, soit donc il y a un bulletin d'adhésion en ligne qui est très facile à remplir.
Et il est où le local de la Cépente?
Alors, en fait, la CEPANT a deux sites. Donc,
D'accord.
il y en a un qui est dans le quartier des Fontaines, qui sert principalement pour nos instances. C'est la salle de réunion, c'est la salle de formation où se font les formations à l'attention des bénévoles ou du public. Et donc, comme ce local était devenu trop petit, donc nous avons transféré nos salariés dans un autre local à Chambrey-les-Tours, pour qu'ils aient à peu près la place nécessaire pour travailler. Hein, parce qu'avec 9 salariés, on ne pouvait pas tenir dans un
Ah
petit
oui.
local du quartier des Fontaines.
Le local est devenu trop petit
Il est devenu trop petit
ou l'association est devenue trop grande, on ne sait pas.
Peut-être, oui, ça dépend, c'est comme vous voulez.
D'accord. On peut voir donc sur votre site internet plein d'informations relatives à vos animations, puis aussi l'aspect global de votre association. L'une des grandes lignes, c'est d'alerter. Est-ce qu'il y a des alertes en ce moment, on va dire, au niveau environnemental principalement?
Oui, bah écoutez, là pour l'instant, on s'approche de la semaine des zones humides et donc on va essayer de faire au moins, au minimum, un communiqué de presse pour appeler l'attention des habitants sur l'importance de préserver les zones humides et d'essayer si possible, de ne plus les détruire comme ça a été trop souvent le cas jusqu'ici. On alerte sur différents sujets en permanence, donc sur la question de l'usage des pesticides, hein, qui est pour nous assez préoccupant. Et donc, on est partenaire de l'appel dit des coquelicots, qui a été lancé pour appeler à l'arrêt de l'usage des pesticides sur le plan. C'est une démarche citoyenne auquel on s'est joint. Et dans ce cadre-là, donc on intervient beaucoup pour essayer d'obtenir une distance des traitements de pesticides dans le monde agricole d'au moins 150 mètres des habitations. Et d'autre part, faire en sorte que l'on rétablisse la protection autour de tous les points d'eau, c'est-à-dire cours d'eau, ruisseaux, fossés, mares, étangs, etc. Donc une protection d'au moins 5 mètres de chaque côté pour qu'il n'y ait pas d'usage de pesticides à proximité immédiate des cours d'eau et garder l'eau la plus saine possible.
Quels sont les risques des pesticides en général?
Écoutez, là donc les risques sont liés pour la nature, pour la biodiversité, c'est un désastre. Hein, on a presque plus d'insectes et dès lors les oiseaux disparaissent peu à peu des zones à fort usage de pesticides. Dans les cours d'eau, c'est une forme d'empoisonnement un peu des cours d'eau. Et les pesticides se répandent souvent à partir des hauts de bassins, là où il y a des grandes zones agricoles en Touraine, et par les fossés d'abord. Si on ne protège pas les fossés, donc ils vont recevoir autant de pesticides que les champs à côté. Et donc, par les fossés, ça passe dans les ruisseaux, puis dans les rivières. Et c'est une source de pollution importante. Alors, on a obtenu, en partie par l'action des associations, que la loi Labbé interdise progressivement l'usage des pesticides depuis 2017 dans les zones urbaines, les zones urbaines, enfin dans les usages communaux, donc il n'y a plus de pesticides dans la voirie, dans les jardins publics, dans les espaces plantés des villes et des villages. C'était un très grand progrès là qu'on a accompagné en signant une quarantaine de conventions de partenariat et d'aide avec des communes pour qu'elles soient accompagnées, et notamment les personnels communaux, pour ce passage au zéro pesticide.
D'accord.
En 2019, donc, le passage au zéro pesticide pour les jardiniers amateurs. Donc là, c'est une étape un peu plus difficile, mais donc il faut arriver à convaincre. Et donc, notamment donc, dans les communes zéro pesticide, on organise un certain nombre de réunions d'information pour les habitants, pour qu'ils apprennent à jardiner sans pesticides. Et donc,
c'est un défi aussi.
Le front le plus important maintenant, c'est le monde agricole, et là, c'est beaucoup plus difficile.
D'accord. Plein de défis en fait que vous
vous
lancez.
Oui, oui. Et puis donc, il y a des alertes sur toutes sortes de sujets. Là, actuellement, on est très préoccupé. Il est possible qu'on ça aboutisse à un dépôt de plainte sur les voies ferrées. SNCF Réseau traite en Indre-et-Loire les voies ferrées en déboisant tout ce qui est autour, y compris quand les voies ferrées sont en surplomb. Et il y a des usages de pesticides pour éviter que ça repousse, mais qui vont très largement au-delà des emprises ferroviaires. Donc là, on est très préoccupé par le fait que SNCF Réseau n'entend pas beaucoup nos appels pour l'instant à ne pas user de pesticides lors du traitement des abords des voies ferrées.
Et tous ces constats-là, vous les faites grâce aux études que vous faites sur
le
terrain?
Oui, et puis le travail aussi en réseau avec d'autres associations qui nous signalent qu'il y a un problème à tel endroit, etc.
D'accord.
Et donc, on est obligé d'être là sur des préoccupations extrêmement diverses, quoi. Donc, pour la métropole de Tours et la ville de Tours, notre action, là, c'est notamment pour les questions de climat. On encourage vivement la Tours Métropole à adopter un plan climat, comme beaucoup de communautés de communes en ont déjà adopté un, et comme la loi le prescrit, et que ce plan climat ne soit pas uniquement cosmétique, si vous voulez, avec des mesures un peu symboliques, mais qu'il soit concret et qui permette à terme une diminution des émissions de gaz à effet de serre sur la métropole de Tours. Avec la ville de Tours elle-même, on est engagé dans quelques actions, notamment un inventaire de biodiversité communale qui va bientôt commencer et qui devra permettre de mieux connaître la biodiversité à Tours, le territoire de la commune est très divers, donc il y a beaucoup d'aspects à étudier.
Beaucoup de milieux différents.
Des milieux très différents, oui. Et partant de informer la population sur les richesses en termes de biodiversité que recèle la commune.
D'accord. Et par quels moyens on pourrait faire ça ?
Par des réunions publiques qui, une fois donc les inventaires vont être faits, il va y avoir une série de... Il va y avoir d'une part des préconisations faites à la ville pour traiter, pour préserver tel ou tel milieu ou adopter tel mode de gestion qui paraît pertinent, et vis-à-vis de la population pour mieux faire connaître l'importance de la biodiversité à Tours.
Oui, parce qu'au final, on la côtoie au quotidien, mais on ne la connaît pas forcément.
Non, non, non. Et bon, c'est une biodiversité qui a été bien abîmée dans certains endroits, mais qui demeure depuis le parc de la Cousinerie au nord jusqu'au parc de Grandmont au sud. Il y a des hotspots de biodiversité qui sont assez importants, hein, donc qu'il faut connaître. Et il y a encore à Tours bon, au moins 2 ou 3 sites qui accueillent des salamandres, par exemple.
Hein, ah
qui,
oui.
Donc on essaye de les préserver parce qu'ils sont en voie de raréfaction. Mais donc, il y a de la biodiversité. Il y a même, donc, sur la Loire, sur le Cher, une biodiversité remarquable, notamment sur l'avifaune, hein, qui mérite d'être mieux connue. Hein, et qui fait de Tours, finalement, une zone refuge pour certaines espèces d'oiseaux.
Ah bon ?
Oui.
Lesquels ?
Pas seulement les cygnes, qui, effectivement, qu'on trouve à Tours, qu'on trouve plus, pas beaucoup ensuite dans les... Mais notamment les sternes naines et les sternes pierragrins. 50% de la population ligérienne de sternes niche à Tours.
Ah bon ?
Grâce à la présence d'îlots sableux assez important sur la Loire, parce que ce sont des espèces qui nichent sur des îlots sableux, et le fait aussi qu'il n'y a pas de chasse à Tours. La Loire ou le Cher à Tours sont des zones refuges pour beaucoup d'espèces animales.
D'accord, mais c'est bon à savoir ça quand même. Effectivement, on aimerait en savoir
mais
plus.
Mais il a fallu qu'on se batte. Je prends l'exemple du quartier des Fontaines. Nous en avons, la Sépente a appuyé un collectif d'habitants qui a essayé de limiter au maximum les déboisements sur les bords du Cher.
D'accord.
Donc, on a passé une sorte de compromis avec Tours Métropole à la suite d'un certain nombre d'actions qui ont été menées sur place pour que, éventuellement, on leur abandonne, disons, les pentes, les pentes des digues, hein, parce que là, il y a un impératif de sécurité publique, mais que tout ce qui est le haut des digues reste en promenade arborée. Comme c'est le cas donc, dans le quartier des Fontaines et dans le quartier des Rives du Cher.
D'accord. Et à ce niveau du quartier des Fontaines, de l'île Balzac qui est juste à côté, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'au niveau nature, c'est bien préservé ou pas ?
Pas trop. Hein. Notamment, bon, la ripisylve, qui est très importante pour des cours d'eau comme le Cher, a souvent été abîmée et discontinue.
Alors, c'est quoi la
ripisylve ? C'est la bande boisée ou buissonnante le long de la rivière.
D'accord.
C'est une zone extrêmement importante pour la vie d'une rivière. C'est la zone d'échange entre la terre et l'eau. Donc les poissons se reproduisent souvent entre les racines des arbres et des arbustes qui poussent au bord de la rivière. Les oiseaux vivent beaucoup dans ces arbres et dans ces buissons, notamment les oiseaux comme le martin pêcheur qui prélèvent leur part, qui se nourrissent dans la rivière. Et donc la préservation, notamment sur l'île Balzac, on aurait besoin d'une restauration. Alors, cela étant, l'île Balzac a aussi des aspects qui sont naturels, notamment sur la partie nord. Et si bien qu'on a vu réapparaître le castor, par exemple, depuis quelque temps sur l'île Balzac.
D'accord. Bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les saules qui sont sur le bord de la rivière, parce qu'un certain nombre d'entre eux sont coupés par les castors. Mais donc, ça permet donc d'avoir une certaine diversité et ça montre que les espèces animales peuvent survivre dans ces milieux semi-urbains.
Et réapparaître de temps à autre.
De temps à autre.
D'accord. J'aimerais juste porter un petit peu sur un sujet. Sur votre site internet, il y a des pétitions pour un petit peu amener les gens aussi à se sensibiliser. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, il y a quelques pétitions, elles ne sont pas très nombreuses, mais il y a une pétition notamment donc, qui a accompagné le lancement de la campagne des coquelicots pour la lutte contre l'usage des pesticides. Il y a quelques on a diffusé également une pétition pour accompagner le combat d'une association amie dans le département du Loiret qui essaye d'empêcher la création d'une déviation autour d'une commune qui détruirait beaucoup de forêts, de zones humides dans ce secteur-là. On ne lance pas des pétitions tous les jours. Hein. On pourrait en lancer tous les jours. On est sollicité aussi par des pétitionnaires. Là, actuellement, par exemple, il y a une pétition qui court à Tours pour demander que les cantines aient au moins 2 repas sans viande et sans poisson
Par
oui,
semaine,
par
peut-être?
semaine. Et donc, bon, on la soutient, mais on ne va pas la relayer, hein, parce qu'il y a, y a sinon on serait inondé de pétitions. Mais c'est effectivement donc un mode d'action du public qui permet d'atteindre beaucoup de gens. Là, il n'est pas exclu qu'avec d'autres associations, nous lancions dans une action auprès du public, éventuellement par voie de pétition, pour essayer de protéger les arbres du boulevard Béranger, du boulevard Orteloup, de faire en sorte que la construction du tramway ne porte pas atteinte de manière irrémédiable au patrimoine arboré qui, en plus, constitue un site, une promenade classée.
Oui, c'est
Donc, vous
important
voyez,
ça.
mais vous voyez, il faut être vigilant sur toutes sortes de points
C'est pas le travail qui manque.
Oui, c'est notre travail et donc c'est pour ça que la CEPAN demande toujours à ce que des bénévoles la rejoignent pour prendre part à ces différentes actions et nourrir les dossiers, les instruire, aller au-devant du public pour expliquer pourquoi telle ou telle démarche nous paraît devoir être suivi et donc il faut aussi donc des bénévoles pour aller sur le terrain pour aller au public.
D'accord. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des projets pour l'année 2020, à part le plan climat? Est-ce qu'il y a d'autres choses?
Oui, le plan climat de Tours Métropole, hein, mais également les plans climat de toutes les autres communautés de communes d'Indre-et-Loire que nous suivons avec attention. Et en général, les autres communautés de communes sont plus avancées que la métropole. Donc,
Ah.
ça a démarré plus tôt. Hein, l'une des grosses actions, ça va être c'est en relation avec le plan climat, c'est ce qu'on appelle l'objectif climat 2030, c'est d'accompagner des communes pour essayer d'améliorer leur territoire communal pour qu'ils soient plus résilients, plus résistants au changement climatique. C'est une action sous 2 angles, celui de l'eau et celui de la végétalisation des communes. Sur le plan de l'eau, c'est essayer de faire en sorte de ne pas trop gaspiller l'eau, de bien connaître sa ressource en eau, de faire en sorte de la préserver et de travailler avec la commune sur une meilleure approche de cette question de l'eau sur le territoire.
D'accord.
Et éviter, par exemple, la création de bassines dans les milieux agricoles qui stérilisent une partie de la ressource en eau. Sur le plan de la végétalisation, c'est essayer de lutter contre les îlots de chaleur, par exemple, et en plantant des arbres, en créant des squares, des espaces plantés dans les communes et dans les villes. Et je crois que bon, c'est un message qui commence à être un peu reçu, puisque je crois que la ville de Tours envisage de créer quelques espaces boisés supplémentaires. Il y a des parties de la ville qui sont très peu arborées, donc très peu végétalisées. Et la construction de la première ligne du tramway, qui s'est accompagnée de la coupe d'environ 1800 arbres, n'a pas amélioré les choses, puisque c'est pas le cas aux Fontaines, mais la place Choiseul, par exemple, ou la place de la tranchée, en haut de la tranchée, sont devenus des espaces complètement minéraux.
D'accord.
Donc là, le travail consiste dans des espaces, dans des villes comme Tours, mais également dans des communes moins importantes, voire dans des villages, à faire en sorte que l'on ait une politique de plantation Ça peut être des arbres, ça peut être également donc d'autres plantations, mais de faire en sorte que on aide la commune à résister au changement climatique par une meilleure résistance. Et l'arbre est un élément essentiel de cette résistance, puisqu'il absorbe beaucoup de gaz carbonique et il restitue de l'oxygène. Et en période d'été, il diffuse de l'humidité dans son environnement, hein, par la respiration des feuilles, et en plus de l'ombre, il apporte un peu d'humidité à son environnement. Et donc la prise en compte de l'importance de l'arbre en ville est tout à fait déterminante pour lutter contre les effets du changement climatique.
D'où votre inquiétude pour la prochaine ligne de tramway qui est donc justifiée de ce
Tout
point de vue-là.
À fait, oui. Là, je pense, bon, on aurait préféré, si vous voulez, n'est pas du tout contre le tramway, bien sûr, mais qu'on ait un modèle de tramway qui soit moins impactant pour l'environnement. Or, c'est un modèle de tramway qui est d'une part assez coûteux, mais qui suppose des fondations assez importantes et donc qui porte atteinte, bien évidemment, au réseau racinaire des arbres, et c'est pour ça qu'on est un peu inquiet pour notamment les boulevards Béranger et Heurteloup, mais enfin, ça n'épuise pas le sujet, mais parce que là, c'est une promenade emblématique de Tours. Et donc, si on ne change pas de modèle de tramway, il faudra construire le plus loin possible des arbres pour que ne pas trop porter atteinte à leur réseau racinaire.
Bien sûr. Alors, on va se quitter juste sur une dernière petite question. Vous, à titre personnel, comment vous voyez l'avenir de l'environnement, on va dire, très très globalement?
Alors donc là, je suis pas d'un extrême optimisme, mais quand même, je dois rendre justice au fait que la population est de plus en plus sensible à ces aspects-là.
Vous en rendez compte?
On s'aperçoit par exemple, on coupe des arbres dans l'endroit, il est presque sûr qu'on va avoir des lettres, des mails de la part des habitants pour nous dire mais qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous bougez pas pour empêcher ça, etc. Et y compris sur les bords de Loire, hein, où là il y a eu beaucoup de travaux ces dernières années qui ont été assez néfastes, de destruction de forêts alluviales, et donc on voit quand même que la population y est sensible. Voilà, donc c'est un aspect positif. Ce qui rend pas trop optimiste, c'est de voir que au niveau de disons des municipalités, des élus, des responsables des politiques publiques, il n'y a pas une sensibilité énorme encore. C'est pas dans leur culture toujours de protéger l'environnement.
Peut-être un problème de priorité.
Alors ça évolue aussi, hein. On voit là dans les programmes électoraux des prochaines élections municipales que la question. La biodiversité, non, ils ne connaissent pas. Ça, c'est rarissime qu'ils s'y intéressent. Mais au moins le climat, ça commence à leur parler. Donc il y a des mesures pour la lutte contre le changement climatique qui commencent à apparaître dans les programmes électoraux. C'est un petit plus, hein.
Bon.
Mais pour que ça aille dans les faits, c'est très difficile. On va bientôt avoir le plan Loire 5. Pour le plan Loire Grandeur Nature. Bon, on va voir si ce plan, par rapport au plan précédent, parce qu'il y a de très gros financements, va permettre de prendre mieux en compte l'étude de la biodiversité sur la Loire et ses affluents, et que ce ne soit pas seulement un plan pour faire des travaux publics, pour renforcer les digues et donc lutter contre le risque d'inondation.
D'accord.
Mais ça bouge très très lentement sur le plan des décideurs.
Ok, bon.
Donc l'opinion publique, ça bouge, mais les décideurs, ça bouge pas très vite.
En finalité, c'est ça que vous constatez.
Oui.
D'accord. Alors, on va juste rappeler comment vous joindre, comment vous venir vers la Sépante, pourquoi venir vers la Sépante déjà?
Voilà, donc venir vers la Sépante, c'est à la fois pour s'informer sur les questions environnementales, c'est aussi pour adhérer à l'association et si possible y devenir bénévole en fonction de son temps disponible, de ses centres d'intérêt, pour participer à des stands, pour participer à des actions de l'association, pour relayer aussi l'information de l'association là où on habite.
Rien que ça fait beaucoup.
Oui. Donc le site www.cepente.fr. On a également la possibilité de joindre la Cepente par téléphone. C'est le 09 77 38 61 75.
D'accord.
Oui. Contact cepente@wanadoo.fr.
Ça, c'est par mail, du coup.
Par mail, oui. Et en se rendant au siège social au local des salariés en tant que de besoin.
Eh ben, on est bon au niveau des informations, on a tout pour venir vers vous.
Oui, bien sûr. Bon, j'ai dû oublier beaucoup de choses, mais donc je vous demande de m'excuser de ces oublis.
Pas de souci. Merci beaucoup, Pierre-Richard.
Cité Radio Fontaine, 89.3.